et compagnie.
Une émission où l'on parle de polar et de vin en bonne compagnie.
Proposée par l'association Culture Art Polar Sud-Aveyron.
Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible.
Bonjour auditeurs et auditrices, lecteurs et lectrices, c'est le 17e chapitre du tome 2 de Polar Vin et Compagnie. Aujourd'hui, un binôme, puisque je suis tout seul avec notre digueur préféré, Florent.
Bonjour.
Un petit sommaire, nous avons évidemment beaucoup parlé du prix Robin Cook, mais il y en a un dont on a très peu parlé, c'est le prix Robin Cook Junior. Ensuite, Olivier Bordassard, qui était passé sur le grill de l'inspecteur Derif, est passé ce coup-ci sur le divan du docteur Florent. Et puis, un premier roman, Florent.
Un premier roman de Mathilde Bosso, Les Saules, qu'on a eu la chance d'interviewer il y a 2 mois déjà avant tout le monde, je crois. En tout cas, avant qu'elle ne passe dans une émission de télé, la grande librairie, un truc comme ça, je pense. En tout cas, comme d'hab, on est les premiers, quoi.
Et elle nous fera découvrir ses préférences en matière de musique et de vin. Alors, ce prix Robin Cook Junior. Alors, 2 écoles ont participé. C'était un petit peu un test. Hein. C'est avec les élèves du collège Marcel Aymard, les 6e, accompagnés par Sylvie Martin, et les élèves des CM1 et CM2 de l'école primaire de l'Hospitalet du Larzac et leur institutrice Catherine Pimenta. Alors, il y avait 8 livres en lice, alors 2 catégories, une catégorie roman et une catégorie BD. Alors les élèves ont voté et c'est Mamie Polar, des médailles pour les JO de Régis Delpech, qui est l'écrivain, l'auteur, et Caroline Hérault, la dessinatrice, qui a gagné pour les BD. Et Frisson, crime sous haute tension de Nicolas Feuze. Voilà. Prix Robin Cook Senior, ce coup-ci. Donc Olivier Bordassard était à Millau, puis à Saint-Afrique la semaine dernière. Alors, nous l'avons interviewé. Dans toutes les biographies que l'on trouve sur le net, il est fait allusion à son début de carrière et à leur lecture, on comprend qu'il a commencé par le théâtre.
En fait, non, ça c'est un mythe entretenu par le ministère de la Culture. Je n'ai pas commencé par le théâtre, j'ai commencé par l'écriture, mais j'ai écrit de manière complètement confidentielle. J'ai écrit quelques textes, voilà, au début de fin des années 80, début des années 90, des textes très très mauvais, qui n'ont jamais été publiés, heureusement. Dont un, d'ailleurs, qui, par un hasard agréable, a été écrit en partie, en toute petite partie seulement, à Saint-Afrique.
Mais alors, pourquoi le théâtre ?
Un petit peu par hasard, je faisais du théâtre en amateur et en même temps, j'étais graphiste dans une boîte de pub et je m'ennuyais à mourir. Et un jour, la metteur en scène m'a dit « Je t'embauche, tu démissionnes de ton boulot de publicitaire qui sert à rien. » Je dis « Oui, effectivement, ça sert à rien. » Et donc, j'ai démissionné et je me suis retrouvé comédien. Mais j'ai poursuivi mon activité d'écrivain comme ça. Et bon, un jour, par chance, j'ai été publié. Une première fois en l'an 2000, des pièces de théâtre. Et puis, mon premier roman est paru en 2006. Et j'ai été, ben voilà, comme plein de gens, catégorisé dans l'univers du polar, alors que le seul roman policier véritablement que j'ai écrit, c'est La France tranquille, paru chez Fayard en 2011, là qui respecte tous les codes du polar, des très méchants, des très gentils, et puis des flics qui essayent de démêler... les affaires et les secrets et les mystères. Et puis ensuite, non, j'ai pas écrit de polar, j'ai écrit des romans noirs, si on veut, mais ces romans noirs, là, parfois, les éditeurs s'en emparent pour les inclure dans des collections de romans noirs ou parfois de romans blancs. Et puis parfois, ils me disent, ah, on aurait peut-être dû le publier en noir, celui-là, parce que ça serait mieux, ça aurait mieux marché. Et inversement, enfin, et bon, donc ils font un peu comme ils peuvent, comme ils veulent. Et finalement, moi, je me retrouve avec une étiquette sur le front que je n'ai pas désiré tant que ça. Hein.
Alors, écrire, c'est une chose, mais être édité, puis être lu, est-ce une question de chance, de talent, de travail, ou peut-être des trois ?
Écrivain, c'est un travail. Je ne sais pas si je suis un bon écrivain, ça. J'aurais pas la prétention de dire que je suis un bon écrivain, mais je suis un écrivain qui a eu la chance d'être lu par quelqu'un. Bon, une éditrice de chez Fayard, qui avait le temps, cette année-là, et donc elle m'a passé un coup de fil. Mais vraiment, je la remercie beaucoup d'avoir pris ce temps-là, parce que je suis vraiment très très privilégié, quoi. Ça n'arrive presque jamais, hein. Parce que tout le monde écrit, en fait. Je pense que vous écrivez aussi. Vous avez écrit, ou vous écrirez. Le travail de l'écrivain, il est, pour une grande part, une sorte de nécessité de dire quelque chose, quoi. Quand j'aurai plus rien à dire, j'arrêterai d'écrire. Hein. Si j'estime un jour que je n'ai plus rien à dire, que le monde qui va tel qu'il va, va très bien, et qu'il n'y a plus rien à observer, ni à critiquer, ni à questionner, ben j'arrêterai. Bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et c'est loin d'être le cas, donc il y a encore beaucoup de choses à observer et à décrire et à questionner et à critiquer, en fait, et voire même à dénoncer. Enfin, bon.
Alors, Olivier Bordassard est un récidiviste du Lipogramme, chers auditeurs. Alors, bon, c'est la minute, on apprend quelque chose. Le Lipogramme, c'est un texte duquel on a retiré une ou plusieurs lettres. Et ces influences littéraires n'y sont pas pour rien.
Je suis venu à l'écriture, disons, grâce à deux auteurs. Robert Antelme et Georges Perec. Quand j'ai lu Robert Antelme, L'espèce humaine, que vous connaissez peut-être, qui est le livre qui raconte son expérience dans un camp de concentration, je me suis dit que si je m'essayais à l'écriture un jour, il faudrait que je fasse vraiment très attention. Parce qu'après Robert Antelme, on ne peut pas écrire n'importe quoi, quand même. Donc il fallait que je travaille beaucoup, quoi, pour lui arriver au niveau de, même pas sous la cheville, quoi, au niveau de la semelle, vous voyez. Donc c'est un ouvrage qui m'a vraiment énormément bouleversé dans ma vie et qui m'a porté à croire que peut-être un livre, ça peut servir à quelque chose, ça peut servir à peut-être une toute petite chose qui a l'air insignifiante, mais qui peut produire, à mon avis, des grandes choses dans les esprits des lectrices, qui est quelles questions on peut se poser pour améliorer sa propre vie, mais aussi la vie de celui qui est à côté de nous, que ce soit un voisin, un ami, une société tout entière, un groupe, une ville, un pays, et le monde entier. Et je pense que Robert Antelme a fait ce travail-là. Il a fait ce travail qui permet à des gens qui ont lu, et même des gens qui n'ont pas lu, de ne pas vivre dans un monde sans art. Je pense que s'il n'y avait pas l'art, la littérature, la peinture, la musique... ça fait, il y a une mouche là, c'est énorme. Ça fait longtemps qu'on serait plus là. Hein. Donc, je crois que la littérature permet au monde de, c'est philosophe Gilles Deleuze qui disait ça à propos de la philosophie, mais on peut le dire à propos de tous les arts. L'art permet au monde de ne pas être ce qu'il serait s'il n'y avait pas l'art. on est encore un petit peu vivant, on est encore un peu sensible, la pensée fonctionne encore. Et le deuxième auteur, c'est Georges Perec. Et Georges Perec, lui, alors là, il m'a porté vers la littérature d'une certaine manière, par le jeu. Je me suis aperçu combien j'avais été, disons, traumatisé. Autant employer les mots comme ça, même si ça paraît exagéré un peu, c'est pas grave. Hein. Combien j'avais été traumatisé par ce que j'avais vécu à l'école. Et comment cette institution m'avait presque dégoûté de la lecture. À un moment donné, avec Georges Perec, j'ai compris qu'on pouvait s'amuser. On pouvait jouer avec les mots, avec les lettres, avec les sens, avec la pensée. On pouvait écrire des choses graves joyeusement. Et je me suis essayé à cet exercice. Et ça m'a vraiment aidé, dès le premier roman, de m'imposer la contrainte du lipogramme, c'est-à-dire retirer une lettre de l'alphabet, comme Perec l'avait fait pour La Disparition. Et donc La Disparition d'Hervé Snout est un grand hommage à cet auteur-là, puisque... Et donc, j'ai retiré la lettre C, je vous le dis, hein, parce que bon, c'est pas très intéressant... De maintenir le mystère. Dans Géométrie variable, il n'y a pas de C, parce que je raconte une histoire insensée, sensée, voilà. Et puis dans Régime sec, il manque une lettre aussi.
Ah, ok.
Ouais. En fait, Régime sec est un lipogramme embrassé, c'est-à-dire qu'il y a la lettre interdite figure dans le titre et elle figure dans le dernier mot du livre, et c'est la lettre M. Voilà, il n'y a pas de M. Il n'y a pas de M parce que je crois qu'il faut... Enfin, c'est un livre, c'est un roman noir, si on veut. C'est un roman de politique fiction qui, j'imagine, une société livrée à... des hommes politiques et des gouvernements ultra-autoritaires. Et donc, ce qu'il va falloir sauver pour deux des personnages, c'est l'amour. Donc, la société retire l'amour, retire le M, retire l'aimer. Et ce qu'ils cherchent à faire, eux, c'est de se sauver de cette amputation.
Voilà, c'était quelques confidences littéraires d'Olivier Bordassard. Alors, Olivier nous fait un magnifique cadeau, puisqu'il y a un exemplaire dédicacé de La Disparition d'Hervé Snout qui vous attend à la radio, une dédicace à l'auditeur ou à l'auditrice de Radio Larzac, qui sera le premier à venir le récupérer au 8 rue de la Capelle. Alors, Florent.
Oui.
Tu as découvert Makodo Atolodé, Étincelle Rebelle, enfin, auteur d'Étincelle Rebelle, avant qu'il passe à France Inter. Tu nous as découvert, dégoté, je dirais même, Mathilde Bosseau, qui a écrit Sol, avant qu'elle passe chez Augustin Trapenard. Et comment tu t'y prends pour découvrir ces merveilles avant tous les autres ?
Eh bien, William, c'est mon secret. Donc, en fait, pas du tout, mais c'est une vraie galère. Je le signale quand même, il n'y a pas aujourd'hui de base de données avec tous les premiers romans qui sortent par type de roman. Donc, je cherche. Heureusement qu'il y a des passionnés qui ont des blogs, qui signalent les sorties de romans. Heureusement qu'on a tous notre petit libraire pas loin, qui parle aux éditeurs, et puis on peut appeler aussi les éditeurs. Donc il y a un petit travail de recherche, et après, pifomètre, hein, parce qu'il faut sélectionner. Il y en a des premiers romans dans le polar. D'ailleurs, en passant, je signale que l'année prochaine, 2026, c'est les 160 ans du premier polar français, édité avant Sherlock Holmes. Hein, donc voilà, et on fera peut-être un petit truc.
Ah ben oui.
De mémoire, je me souviens plus du titre, je crois que c'est L'assassinat de la rue Morgue, il me semble. Non, l'affaire Le Rouge. l'affaire Le Rouge d'Émile Gaborio. 1866, donc on va fêter ça. C'est un premier roman en quelque sorte.
Ben oui.
Voilà.
Premier roman. Donc aujourd'hui, on va écouter l'interview que tu as fait de Mathilde Bosso il y a à peu près 2 mois.
Voilà.
Et on va grignoter sur la grille d'été puisqu'on a une autre interview d'une romancière qui écrit un premier polar.
Oui, Véronique Prel, pour On dira que c'est un accident. Et alors, autant Les Saules de Bosso, c'est du rural, vrai rural polar. Et là, avec On dira que c'est un accident, on est dans la cité autour de Paris. Et c'est plutôt un roman noir et assez drôle et assez trash. Voilà.
Donc on en parlera dans 15 jours.
Exactement.
On écoute Mathilde Bosso et Florent.
En 1455, Johannes Gutenberg a imprimé la première Bible.
Mais ne recommence pas, hein, sinon...
Je vais briser tes os, je vais boire ton sang.
Et toujours comme ça, la première fois.
Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir, en fait, parce qu'on fait un beau métier, métier passion. Nous accueillons donc Mathilde Bosso. Bonjour Mathilde Bosso.
Bonjour.
Alors vous avez gentiment accepté notre invitation et je vous en remercie pour parler avec moi de votre premier roman qui est un premier polar, Les Saules, aux éditions du Seuil, dans la collection Cadre Noir. Donc je vais vous présenter entre guillemets Mathilde Bosso, mais alors très rapidement. Vous êtes bretonne de naissance, vous avez passé votre enfance au cœur d'un territoire rural, proche de Lamballe, hein, Côte d'Armor, dans la ferme de vos parents. Et vous êtes aujourd'hui professeur de français dans des collèges de ZEP à Angers.
Oui.
Et vous êtes passé avant Angers dans le 9-3.
Voilà. Absolument.
Ok, donc je ne me suis pas trompé.
Pas du tout, tout bon.
Alors, on va parler donc de ce roman que j'ai trouvé très très beau, Les Saules. Ce roman, bon, pour moi, j'ai l'impression qu'il a été écrit comme dans un souffle, un peu émouvant et sensible, et très poétique aussi. Et j'aimerais en savoir plus sur vos inspirations littéraires qui vous ont fait adopter ce style très efficace, avec un style très acéré, mais en même temps très poétique.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, avec cette idée que ça a été écrit dans un souffle, comme ça, une espèce de pulsion. J'ai été saisie par l'envie d'écrire. Je ne savais pas à ce moment-là que ça allait devenir une histoire d'une centaine, 200 pages. Je savais encore moins que ça deviendrait un livre édité. Mais en tout cas, j'avais cette envie d'écrire. C'est compliqué de parler du style parce que c'est souvent quelque chose qui est en train de se faire. J'ai l'impression, moi, quand j'écris, de pédaler, de ne pas regarder ni la côte ni le chemin à parcourir. Par contre, je sais que oui, j'ai été nourrie de très nombreuses lectures. C'est très protéiforme chez moi. Ça va de la poésie contemporaine à des grands romans américains, de Joyce Carol Oates à Ron Rash plus récemment. Et sans doute, ces lectures multiples se sont emmêlées en moi, combinées à la résurgence de souvenirs d'enfance qui me sont propres pour donner naissance aux Saules.
Ça ne m'étonne pas que vous me parliez de Ron Rash. Et alors, c'est marrant aussi le fait que vous... Enfin, c'est quand même étonnant le fait que vous n'ayez pas, en quelque sorte, prévu d'écrire un roman. C'était peut-être une envie pressante d'écrire à force de lire, parce que vous devez lire pas mal.
Oui, je lis beaucoup.
et c'est quand même étonnant parce que, en fait, avec ce roman, vous devenez un peu, pour moi, un pur player, comme disent les Anglais. un pur player du polar rural. Vous voyez, c'est un polar quasi sociologique, qui est vraiment ancré, pour ceux qui connaissent, en tout cas la Bretagne, les fermes en Bretagne. C'est par petits traits, mais ça, c'est très parlant, en tout cas, je trouve très, très efficace.
Ouais, c'est gentil, je vous remercie beaucoup, ça me touche.
Mais alors, ce que je trouve, est-ce que pour vous, écrire ce livre, ça n'a pas été un moyen de revenir chez vous, vous qui avez finalement quitté la Bretagne, donc quitté aussi la ferme où vous avez passé votre enfance, peut-être plus encore, et puis et finalement, en plus, vous avez choisi un métier qui vous oblige à émigrer, en quelque sorte.
Oui, tout à fait, absolument.
Donc, est-ce que c'est pas un peu ça pour vous, ce livre, une manière cachée de revenir ?
Oui, certainement, parce que quand j'écris, ce moment où je me mets face à mon clavier pour écrire, je calcule rien, je sais pas du tout ce que je veux écrire, ce que je vais écrire. Je pensais juste raconter la tuerie du cochon chez moi, voilà, pour tout vous dire.
D'accord.
C'était, je venais de donner naissance à mon second fils, donc sans doute le corps un peu cabossé, l'esprit un peu embrumé. Je venais de perdre quelqu'un qui m'était cher aussi, et donc c'était un peu un carrefour un peu bordélique en moi. Et donc j'ai commencé à écrire, et effectivement je suis retournée sur cette terre qui est vraiment la terre de mes ancêtres, hein. C'était une ferme qui était transmise comme ça de génération en génération, et avec moi l'héritage devient un peu refusé, puisqu'effectivement je vais aller travailler ailleurs, je vais faire des études, et je vais choisir en fait un autre travail, un autre lieu pour exercer. Je vais cultiver les bêtes, puisque je suis professeure, mais je vais pas cultiver la terre. Et effectivement, très vite, je suis rattrapée par ce lieu, en fait. Très, très clairement, ce que je décris dans les saules, hein, c'est une fiction, mais c'est ma maison, elle est boutiquée de cette manière-là, avec cette cave, avec cette toilette qui donnait sur l'escalier de la cave, voilà. Ouais. C'est vraiment, j'aime bien dire que c'est la carte postale de mon enfance, parce que vraiment, je me suis inspirée de ces lieux que j'ai retraversés par le truchement de la fiction, quoi.
D'accord. Oui, c'est un mouvement intéressant. Il y a tout un lien entre le polar et la ruralité. Et le polar peut souvent être écrit par des gens qui ont une attache rurale très forte, même s'ils vivent dans des villes. Mais pour que nos auditrices et auditeurs ne se perdent pas complètement, je vais faire un court résumé de ce roman noir, donc Les Saules. Où on découvre en début de roman le corps de Marie. C'est un drame qui va évidemment bouleverser le village breton, mais pas seulement les habitants des quartiers, si j'ose dire, c'est-à-dire toute cette lutte cachée entre la bourgeoisie et les paysans, peut-être. L'histoire et l'enquête sont racontées par Marguerite. Alors là, je résume en un mot, j'irais la souillon ou la sauvageonne du village. Mais l'histoire est aussi racontée tour à tour par différents protagonistes, comme Victor, l'ami de Marguerite, qui est super touchant. J'ai l'impression qu'on a tous connu ou eu un Victor dans son entourage. Et puis par des policiers. Alors ça se passe lors d'intermèdes particulièrement savoureux. Donc le mystère du meurtre sera-t-il résolu ? Alors je vous conseille d'acheter le livre, car je ne vais rien divulgâcher aujourd'hui. Alors, comme je l'ai déjà dit, il y a dans cette écriture une respiration qui remplit les poumons. Et je me demandais quel rythme vous avez souhaité imprimer à cette histoire, en fait.
Encore une fois, quand j'écris, je ne me pose pas la question. Je sais que j'aime bien, alors évidemment comme tout à chacun, les romans qui à la fois mêlent et la langue, et le fond et la forme. Hein, c'est-à-dire que l'histoire avance, mais qu'en même temps, elle nous est racontée d'une certaine manière. Donc en fait, je sais que très vite, je vais complètement me cramponner à Marguerite. Hein, ça va vraiment être le cœur, la colonne vertébrale de mon écriture. Et puis, je vais créer Marie, comme ça, sous le clavier, que je vais donc assassiner très rapidement. Et donc, je vais me retrouver avec ces deux lignes-là à conduire, à la fois cette petite Marguerite taiseuse, mal aimée, vilipendée, harcelée à l'école, et Marie qui va vivre à travers, en fait, la rumeur qui va se répandre à la gendarmerie au gré des convocations des uns et des autres. Et donc, en fait, je vais tirer ces deux fils. Ça va être vraiment ce rythme-là, à la fois Marguerite, puis Marie, puis Marguerite, puis Marie, dans un espèce de balancier comme ça de silence, parce que Marie est morte. Elle ne peut pas parler, elle ne peut pas divulguer la vérité, hein. Elle ne peut pas dire qui l'a assassinée. et à la fois le silence terrible de Marguerite qui, elle, serait capable de parler parce qu'elle, elle passe beaucoup de temps près de la rivière où on a retrouvé le corps de Marie. Mmh. Et donc, c'est ce mouvement de balancier qui rappelle aussi les saules, voilà, qui balancent leurs branches, qui va m'habiter, me traverser et habiller l'écriture de bout en bout.
Ouais, d'ailleurs, c'est très touchant, je trouve, la relation entre Marie et Marguerite. Mmh, mmh. C'est un peu deux sœurs que tout oppose et puis que beaucoup de choses rapprochent finalement. D'ailleurs, je me demande où vous avez puisé toute la matière pour construire les relations entre les personnages, vous voyez, comme entre Victor et Marguerite, Marguerite oui. et Marie, les deux policiers qui enquêtent.
Alors c'est pareil, c'est protéiforme, c'est presque brouillon dans mon esprit. Il y a dans beaucoup de personnages féminins, des saules un peu de moi. Et il y a aussi ceux que j'ai pu croiser quand j'étais enfant et que je vivais dans ce petit hameau avec ce car qui nous ramassait tous les uns les autres et qui m'a fait évidemment côtoyer à l'école d'autres personnes. À titre d'exemple, par exemple, le petit Victor, j'avais un petit voisin qui ne venait qu'en vacances chez ses grands-parents parce que j'habitais un hameau qui n'était habité que par des personnes âgées quand j'étais petite. Et en fait, ce petit voisin qui était là que pendant les vacances, il venait, il balançait des cailloux à la fenêtre de ma chambre qui était en hauteur, et donc ça voulait dire réveille-toi, quoi.
Ouais, d'accord.
Et donc voilà, ce petit Victor, il est né en fait de ce souvenir-là, et puis ensuite, bah, c'est la fiction qui m'embarque à chaque fois.
Alors c'est vrai, là, vous aviez noté tout ce qui entoure Marguerite de violence, de harcèlement scolaire ou familial. Enfin, toute cette violence et ce harcèlement, est-ce que c'était un sujet important pour vous à aborder dans un premier roman ?
Alors, la question du harcèlement, c'est évidemment une question qui me traverse puisque je suis enseignante depuis près de 20 ans. C'est aussi... mon roman, il se passe plutôt à la fin des années 80, en film des Gitanes, donc on dit des Lacs 5 et Madonna sort ses premiers tubes. Et en fait, je l'ai vu... dans la cour d'école, dans le car notamment, je me souviens d'une petite fille qui ne sentait pas bon et qui n'avait pas le droit de s'asseoir. Mmh. Je me souviens d'avoir été moi aussi en tant que fille d'agriculteur victime d'humiliation hein, de la part d'adultes. Hein.
D'accord.
Parce que voilà, j'étais fille de paysan, donc bah, je tuais. Le harcèlement n'était pas nommé, en tout cas je m'en souviens pas, mais il existait déjà. Et très vite, c'est vrai que c'était des petits cailloux que j'avais envie d'enlever de ma chaussure pour trouver un autre chemin qui ait un meilleur écho. Voilà.
Ouais, ouais. En fait, en quelque sorte, vous aviez... Alors même si votre écriture est très spontanée, d'ailleurs, l'histoire, elle est tendue un peu aussi, mais ondulante, hein, comme les branches, mmh. les saules. Mais vous aviez sans doute cette histoire en vous depuis oui. pas mal de temps.
Finalement. Peut-être.
Enfin, par petits bouts. Par petits bouts. Voilà. Et aujourd'hui, quels sont vos projets littéraires ou artistiques ?
Alors, j'ai un deuxième roman qui a été signé. Au Seuil également et en édition numérique aux éditions de l'été. Donc voilà, le deuxième est ficelé. J'ai fini les corrections il y a 2 semaines. Donc on peut vraiment dire que là, il me semble qu'il est terminé, en tout cas de mon côté.
D'accord.
Et puis je continue d'écrire. C'est pas forcément facile de jongler avec une vie de prof, de mère, de famille, ouais. d'écrivain aujourd'hui. Mais j'essaye de ménager du temps pour écrire parce qu'en fait, au-delà d'un loisir, ça devient un besoin. Donc, j'essaye des fois de canaliser pour avoir du temps pour vivre parce qu'on a l'impression que le temps est un peu suspendu quand on écrit et qu'on quitte un peu les règles de la vie et des gens qui vous entourent. Donc j'essaye de trouver cet équilibre qui est encore un peu précaire, mais je continue à écrire. Et puis, tant que j'ai des choses à dire, je les écris et puis... Un jour, j'ai vidé mon puits, je ferai autre chose, j'irai cultiver mon jardin, je ne sais pas.
Ouais. Et un deuxième roman, donc, est un polar ou un roman ?
Oui.
D'accord,
ouais,
super.
Oui, c'est encore quelque chose d'étrange, sans doute, un peu à la manière des saules, même si c'est très différent, c'est quand même, oui, il y a en tout cas une enquête.
D'accord, je note et on va sûrement le lire et l'attendre. Je ne résiste pas au plaisir de lire l'incipit de votre roman. parce que je le fais pas souvent, mais je trouve ça trop... ça claque, comme on dit. Donc c'est le prologue. Elle met un peu de rouge sur ses lèvres, pas trop. Il lui a déjà dit qu'il trouvait ça vulgaire, un peu pute même. Et Marie a rougi, frissonné de honte et baissé les yeux à la manière d'un chiot pris en faute, réprimant une envie d'essuyer son maquillage d'un revers de manche. Marie a l'habitude de n'obéir à personne, mais lui, il avait raison. Il a le don d'avoir toujours raison sur Marie. Bon, moi j'ai adoré votre bouquin, donc je conseille à tout le monde de l'acheter. Et ensuite de patienter pour le deuxième roman. Ouais. Nous voilà arrivés au bout de ce trop court entretien. Et bon, j'aurais une petite dernière question. Accompagnement musical et viticole pour déguster votre si beau roman, Mathilde Bosseau.
Alors, une musique, Mon enfance, de Barbara. Et pour contrebalancer ce poids-là, un rosé de Loire bien frais, au soleil. Ah,
très bien. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre temps. Et j'espère que ce moment se sera bien passé pour vous. Je vous dis
absolument.
À très bientôt sur Radio Larzac ou ailleurs, peut-être à Millau.
Merci beaucoup. À bientôt.
J'ai eu tort, je suis revenue dans cette ville loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glisser le soir, bleu et gris, ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau là-haut se dressant. Comme au passé, j'ai marché les tempes brûlantes, croyant étouffées sous mes pas, les voix du passé qui nous hantent et reviennent sonner le glas. Et je me suis couchée sous l'arbre, c'était les mêmes odeurs. Et j'ai laissé couler mes pleurs. J'ai mis mon dos nu à l'écorce, l'arbre m'a redonné des forces, tout comme au temps de mon enfance. Et longtemps j'ai fermé les yeux, je crois que j'ai prié un peu, je retrouvais mon innocence. Avant que le soir ne se pose, j'ai voulu voir la maison fleurie sous les roses. J'ai voulu voir jardin où nos cris d'enfants jaillissaient comme source claire. Jean-Claude et Régine et puis Jean, tout redevenait comme hier. Le parfum lourd des songes rouges, les dahlias fauves dans l'allée, le puits tout, j'ai tout retrouvé. Hélas, la guerre nous avait jetés là, d'autres furent moins heureux, je crois, autant jolis de leur enfance. La guerre nous avait jetés là, nous vivions comme hors la loi, et j'aimais cela quand j'y pense. Oh mes printemps, oh mes soleils, oh mes folles années perdues, oh mes 15 ans, oh mes merveilles, que j'ai mal d'être revenue. Oh les noix fraîches de septembre et l'odeur des murs écrasés, c'est fou tout, j'ai tout retrouvé. Hélas, il ne faut jamais revenir, autant cacher les souvenirs du temps béni de son enfance. Car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. Vous ma très chérie, oh ma mère, où êtes-vous donc aujourd'hui? Vous dormez au chaud de la terre, et moi je suis venue ici pour y retrouver votre rire, vos colères et votre jeunesse. Je suis seule avec ma détresse, hélas. Donc revenu et seul au détour de ces rues, j'ai froid, j'ai peur, le soir se penche. Pourquoi suis-je venu ici où mon passé me crucifie? Elle dort à jamais, mon enfant, mon seul.
C'était Barbara dans Mon enfance, un morceau choisi par Mathilde Bosseau. Mais que nous a-t-elle conseillé comme vin, elle qui est angevine?
Il y a trop de gens qui savent pas ouvrir une bouteille de vin.
Oui, eh ben, le pinard, c'est pas interdit que je sache.
Alors, il y a des chargés de projet immobiliers, des chargés de projet scientifiques, des chargés de projet culturels. Et ce matin, nous sommes avec une chargée de projet, Rosée Élodie Pipon, de la Fédération Viticole Anjou-Saumur. C'est un bon nom déjà, chargée de projet, Rosée.
Oui, tout à fait.
Surtout par ces grosses chaleurs, ça consiste en quoi ?
Donc, je suis en charge de trois appellations de rosé de l'Anjou-Saumur, que sont le Cabernet d'Anjou, le Rosé d'Anjou et le Rosé de Loire. Et mon rôle est d'assurer la mise en œuvre d'actions de promotion de ces appellations pour les faire connaître à l'échelle locale et nationale.
Et alors, nous, on vient de fêter les 100 ans de l'AOP Roquefort. Et vous, j'ai vu sur votre site, vous parlez de AOC.
Oui, tout à fait. Donc, les trois appellations que je viens de citer sont trois AOC. Celle qui nous intéresse ce matin à Rosée d'Anjou est notamment une appellation qui est née en 1957.
D'accord.
Une reconnaissance en AOP à cette occasion-là.
Parlons de ce Rosée d'Anjou. Alors, comment on le décrit, cépage?
Oui, donc c'est une appellation de rosé que nous qualifions de rosé tendre, puisqu'il comporte des sucres résiduels. En termes d'encépagement, on est sur des vins composés principalement de cépages locaux, donc une identité forte en local, donc gros lot noir, gros lot gris, cabernet franc, cabernet sauvignon. On peut également y trouver du Caux, du Gamay ou du Pinot de Nice. Et en termes de descriptif, de description, on va dire, on est sur des rosés très fruités, plutôt sur un équilibre entre acidité et sucrosité, ce qui apporte une belle fraîcheur, notamment sur les temps estivaux.
Donc c'est plutôt un rosé d'apéritif ou...
Alors, il est en effet tout à fait adapté sur les temps d'apéritif, mais aujourd'hui, on le préconise aussi sur les temps de repas, puisque sa sucrosité en fait un très bon vin pour, par exemple, accompagner des plats des cuisines du monde, avec des épices, cuisine asiatique, cuisine méridionale, cuisine d'Amérique du Sud. Donc ça, c'est un vin qui peut accompagner le repas, de l'apéritif jusqu'au dessert.
Alors sur le mot sucrosité, en fait, j'imagine que ça ne me parle pas à moi, donc peut-être à nos auditeurs, auditrices aussi. Ça veut dire quoi, que le vin est légèrement sucré ou...
Tout à fait. Selon la perception de chacun, certains le verront plutôt fruité. Mais on est en effet sur une légère sucrosité voilà, qui en fait un vin que nous qualifions de tendre.
Donc vous parliez tout à l'heure de trois AOC que vous suiviez. Ça représente combien de vignerons ?
La plus grosse des appellations des trois que j'ai pu citer, c'est le Cabernet d'Anjou. Et là, on est environ sur 600 exploitations viticoles pour environ 6000 hectares en moyenne sur les 5 dernières années. Cette appellation représente à elle seule environ 43 millions de bouteilles vendues, enfin produites annuellement. Pour ce qui est du Rosé d'Anjou, on est sur une appellation qui comprend environ 400 exploitations viticoles. Et là, on est plutôt sur 15 millions de bouteilles. Et puis alors, Rosé de Loire a un profil différent de ces deux rosés tendres. Rosé de Loire est une appellation de rosé sec. Et aujourd'hui, on est autour de 800 hectares produits pour cette appellation et 5 millions de bouteilles.
Que vous vendez pour vers quelle clientèle ?
Alors, les marchés sont différents d'une appellation à une autre. On a un marché France qui est très présent. Et un marché export qui l'est un peu plus pour l'appellation Rosée d'Anjou, qui exporte environ 40% de ses bouteilles, notamment en Belgique.
D'accord. On aime bien donner une idée à peu près de prix. Alors effectivement, ça va être, j'imagine, suivant les AOC, assez différent, mais prix à la bouteille, on est sur quel niveau de tarif ?
On va être entre 4 et 6 euros. On est sur des vins accessibles.
Ah oui.
Voilà, et qui peuvent tout à fait aussi correspondre aux attentes des jeunes consommateurs qui découvrent le monde du vin avec des vins accessibles de par leur coût d'achat, mais également de par leur approche de dégustation et leur facilité à être, comme je le disais, dégustés à différents instants de consommation, de l'apéritif jusqu'au dessert.
Ok. Ben, on va remercier Mathilde Bosseau, donc autrice et qui vit à Angers, hein, qui est professeure de français à Angers, et son premier roman, Sol, que je vous conseille. Et on la remercie pour nous avoir conseillé ce rosé d'Anjou à boire bien frais. Donc.
Ben oui, merci à elle.
Merci beaucoup, Élodie.
Écoutez, merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée, ouais, et une très belle fin de semaine. Et
cet été, on va essayer de trouver du rosé d'Anjou chez nos cavistes.
Je l'espère. Je pense sinon, il faut le réclamer aux cavistes.
Voilà. Merci, Élodie. Bonne journée à vous.
Merci.
Et au revoir.
Au revoir.
C'était donc le 17e chapitre du deuxième tome de Polar Vin et Compagnie. On se retrouve dans 15 jours. Merci à Nico de nous permettre de grignoter sur la grille d'été. Vous pouvez écouter cette émission mardi prochain à 16h ou en podcast sur radiolarzac.org. Au revoir.
Salut tout le monde.